die Immobilien hätte die Uhr ich hier pum pum pum. Das ist die Platz, das mir. Das mir sur le dos dans la caisse. Ici. Et là. L'arrivée sera belle.
You got no clock. But many, many times, a little walk to walk, a hope and a good line. You got a heart, you got a tick, you got a talk. When I was a little girl, when I was a little girl, when I was a little girl, when I was a little girl.
Et on dit bonjour à toutes et à tous qui écoutaient Air Diwa, Radio Diwa 101.7 dans le Haut Diwa, c'est-à-dire à partir de Luc et au-dessus, et puis 107.5 bien sûr, la fréquence historique autour de Di. Journée spéciale avec l'EVS, le 101.7 basé à Luc, dont Sandrine est la représentante. Tu vas nous dire quelques mots dans quelques instants, bonjour à toi.
Bonjour.
Et cette journée spéciale qui se passe à Miscon, où il est question de parler de circuit court, de manger local et de s'en sortir eh bien, avec un maximum d'autonomie. Autour de la table également Anne Rouche, voilà, pour la communauté de communes. Tu nous diras qu'est-ce que tu fais à la communauté de communes. Et puis bonjour. Aline Guillot, c'est ça ?
Bonjour, oui.
Maire de Miscon. J'ai ma petite anti-sèche. Que je vous découvre. Voilà, Baptiste au micro, avec Lolo également derrière aux manettes. Et Sandrine, à toi, parle-nous un peu de cette journée, sa genèse, son objectif.
Alors en fait, le 101.7, donc l'espace de vie sociale du Haut-Diwa, donc nous sommes à Luc, en Diwa. Nos locaux sont à Luc. Et depuis un an déjà, on a répondu à un appel à projet de la CAF. L'appel à projet, c'est partager, consommer autrement. Et donc, tout au long de la, voilà, l'année scolaire, on a été dans plusieurs villages. On a été à Beaumont, on a été à Bellegarde, on a été aussi à Luc. On a proposé des ateliers de cuisine, on a proposé des ateliers de couture avec des objets de récup pour du réemploi. On a parlé de la question de l'eau aussi, de la gestion de l'eau de manière globale, mais aussi dans le Haut-Diwa. Donc là, on était en lien avec le syndicat mixte Rivière-Drôme et le Pascal Baudin, le maire de Bellegarde, qui est donc fontainier et donc qui a témoigné aussi de comment il gérait l'eau dans sa commune. Donc voilà, on a essaimé plusieurs rencontres. On était aussi avec Dromoli pour des ateliers de réparation et d'entretien de vélo à Minglon, là, début juin. Enfin voilà, on a parcouru toute l'année comme ça, puisque le rôle de l'EVS, les objectifs de l'EVS, c'est d'aller, c'est de proposer une animation, de faire vivre aussi le territoire, en plus de ce qui existe déjà, et de travailler avec différents partenaires, créer du lien, des moments de rencontre, des moments d'échange. Et donc ce projet que l'on avait appelé la courte échelle, puisque du coup nous intervenions sur le territoire du Haut-Diwa, abordait toutes les questions, alors je vais dire de transition écologique, de consommer autrement, de la question de l'eau, enfin des ressources, etc., de manière très générale. Et il y a eu quelques ponts avec tout le travail qui a été fait dans le cadre du PAT, dont Anne Rouche nous parlera bien en détail. Et il y avait un volet, justement, l'idée aussi, c'est de mettre en valeur les producteurs locaux, ceux qui cultivent, ceux qui produisent des aliments, voilà. Les artisans aussi, locaux. Tout ça pourquoi ? Parce que, de nos jours, comment on peut consommer de manière qualitative, comment on peut consommer sur des circuits courts, etc. Et l'idée aussi, c'est notre rôle en tant qu'espace de vie sociale, c'est de pouvoir aussi mettre en lien les gens, faire se rencontrer les gens, soutenir ou en tout cas promouvoir des dynamiques, des choses qui se passent sur le territoire. Et pour clore, donc pour arriver à l'aboutissement, cette journée de la fête du circuit court à Miscon, Voilà, l'idée c'était qu'on soit accueilli aussi par un village et du coup je remercie encore les habitants de Miscon et la maire Aline qui nous ont chaleureusement accueillis et qui ont permis que cette journée puisse avoir lieu dans un super beau cadre dans le camping. Et l'idée c'était l'aboutissement de tout ça, voilà. Donc on a aujourd'hui, on propose des ateliers autour et des jeux autour de la question de l'eau. Donc il y a aussi la chargée de mission du SMRD. Il y a des producteurs, il y a des artisans, donc il y a du travail du cuir, travail de l'osier, des ateliers de couture. La corderie du pays d'Iwa est présente aussi puisqu'il y a une antenne dans le haut d'Iwa. Voilà, il y a des producteurs de miel, des fruits et légumes. Il y a de la clairette, il y a des jus de poire, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a des sirops de différentes fermes. Voilà, l'idée c'était de proposer un premier moment de rencontre.
Et tout ça avec des fermes qui sont dans la zone dite de l'EVS 101.7.
Tout à fait.
C'est-à-dire les 18 communes autour de Luc.
Tout à fait, donc on a de la bière de Saint-Dizier, de Barnave, enfin voilà, on a à Saint-Romand, on a... Les jus de Valmaravel.
Et beaucoup de Miscon.
Beaucoup de Miscon aussi, forcément. Je ne peux pas citer tout le monde, surtout que moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Mais,
très bien. Eh bien, alors, merci, Sandrine.
Si tu tais-toi, Sandrine. Parlé.
Voilà, tu travailles donc à l'EVS. Le 101.7, c'est 50 rue de la Piscine à Luc-en-Diwa, avec des horaires d'ouverture du mardi au vendredi. Bienvenue à tous et toutes ceux.
Oui, bien. On vous accueille avec plaisir.
Alors, Anne Rouge, peut-être pour la communauté de communes, ce PAT, qu'est-ce que ça veut dire, PAT? Rappelons-le. Et donc, dans quel cadre, finalement, la Comcom s'inscrit un petit peu dans ce programme-là proposé par le 101.7?
Alors, PAT, c'est l'acronyme de Projet Alimentaire Territorial, et dont je suis la coordinatrice sur le pays d'Iwa. Et donc, ce gros mot, il veut surtout dire qu'il est important de rapprocher les gens autour d'une table, autour des produits locaux, sur un territoire donné. Donc là, en l'occurrence, c'est le Diwa. Ça nous donne pas mal d'ambition, de challenge. Moi, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis arrivée sur le territoire. Et un projet alimentaire territorial, ça doit passer par des grandes étapes. La première, c'est de faire un diagnostic pour savoir quelles sont les richesses, les forces de ce territoire. Il y en a beaucoup, mais pour savoir aussi quels sont les progrès qu'on a à faire pour mettre plus de local dans les assiettes. On n'est pas là pour se dire qu'il faut que les assiettes soient pleines que de local, mais comment on fait pour qu'il y ait plus de local dans les assiettes? Comment on fait pour renforcer le niveau de vie de nos producteurs? Comment on fait pour faire que les chefs dans les restaurants collectifs, dans les cantines, ils aient envie et qu'ils aient accès aux produits locaux.
Toutes diagnostic qui a mis en avant d'ailleurs que le Odiwa parfois produisait en tout cas qu'une partie était difficile à écouler. Ça, c'est apparu assez vite.
Ça fait partie des constats. Alors, c'est pas du tout que le Odiwa produit trop. On a potentiellement un des marchés qui est peut-être arrivé à saturation. On n'en est pas si certain que ça, mais qui est la vente en direct aux consommateurs. Et du coup, il faut qu'on accompagne les producteurs, les productrices, mais aussi les vendeurs, vendeuses de produits locaux sur le territoire pour qu'il y ait d'autres débouchés, parce qu'il y en a d'autres et qu'on peut être en complémentarité. Mais il n'y a pas trop de produits locaux dans le Diwa. On peut en développer encore plus. Et donc, suite à ce diagnostic, là, on est arrivé au terme de cette première étape. La deuxième étape, c'était de construire la feuille de route du projet alimentaire territorial. Et ça y est, elle a été votée en conseil communautaire il y a 2 jours. Donc
c'est quoi ?
Tout frais. Et j'en parlerai un peu après. Mais on a 9 actions dans cette feuille de route qui vont nous animer sur les années à venir. Et c'est des actions fortes. Moi, j'en suis assez fière aujourd'hui de cette feuille de route. Je trouve qu'elle elle porte plein d'ambition et elle donne un ton que la communauté de communes n'avait pas forcément osé prendre jusqu'ici et qui dit que oui, l'alimentation, ça doit faire partie du projet de territoire, l'agriculture aussi, et qu'on va y travailler collectivement. Et donc maintenant, il nous reste du pain sur la planche parce qu'il faut mettre en œuvre ces actions. Et pour mettre en œuvre ces actions, il va falloir aller chercher l'argent pour ça. Donc voilà ce qui nous attend.
On y revient un peu plus tard. Aline, le mot du maire de Miscon qui nous accueille, son lien avec le circuit court,
tout ça. Nous, c'est une petite vitrine de Miscon, puisque à Miscon, on a de tout. On pourrait vivre presque en autarcie. On a donc des éleveurs, des fromagers, des légumes secs, des maroquiniers.
Du piano.
Ouais. Et donc, nous, déjà, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on a plein de petites producteurs, éleveurs et petits artisans sur Miscon. Et donc, du coup, la proposition de Sandrine, d'abord, moi, j'accueille un peu tous les projets. J'aime bien ça. Si c'est dans nos possibilités de pouvoir ouvrir nos portes sur Miscon, il n'y a pas de souci. Ça nous occasionne un peu de population et de changement de rythme.
Et de faire découvrir le village.
Ouais. Oui. Et donc, moi, je suis quand même éleveuse, agricultrice dans l'âme, bergère. Et ça me convient tout à fait comme thème. Voilà.
Oui, moi je voulais aussi dire quelque chose parce que j'ai oublié, non pas parce que je les vois maintenant, mais que j'ai oublié de les citer et qui fait aussi le lien avec le PAT, donc je les laisserai développer tout ça. C'est du coup les popotes du dimanche, en fait, qui du coup proposent des repas à prix libre avec des ingrédients qui viennent essentiellement des producteurs locaux. Et donc ils devaient aussi, donc pour l'instant ils ont officié à Die, mais donc ils devaient se déployer sur tout le territoire du Diwa. Voilà, je fais juste en intro, hein, ils en parleront bien mieux que moi avec Anne aussi. Et voilà, ça faisait du sens qu'ils soient présents avec nous aujourd'hui. Et ils ont servi petite centaine de repas, hein, je crois, hein, comme c'était prévu. Et du coup, c'est chouette parce que y a eu une bonne centaine de personnes de passer et la journée n'est pas terminée encore. Et voilà, leur objectif aussi se recoupe. Et moi, je trouve que ce qui est important dans ce que je disais un peu en introduction, c'est se soutenir dans nos énergies communes avec des objectifs communs. Alors après, les objectifs ne sont peut-être pas tous 100% communs, mais en tout cas, on a des points communs dans toutes les initiatives là, un peu qu'on a présentées. Et l'idée, c'est de faire ensemble et d'aller, de créer des moments conviviaux et où les gens se rencontrent.
Aline, peut-être pour poursuivre un petit peu sur Miscon qu'on découvre pour certains, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes ici, combien vous êtes à travailler ici? Est-ce que réellement il y a une vraie autonomie comme vous étiez en train de le dire? Qu'est-ce qui vous manque finalement pour l'être?
Alors, qu'est-ce qui nous manque? Pas grand-chose, du chocolat. Non, on est 70...
Des fruits et des légumes,
et chacun fait un peu son potager, donc... je pense que dans les 70 habitants, il y a chaque personne a son petit jardin et fait au moins des salades, courgettes, pommes de terre. Après, on va quémander un peu sur Luc et sur les environs, mais en gros, il nous manque pas grand chose pour pouvoir tourner tout seul comme des grands.
Non, mais c'est vrai, ça, c'est un mythe ou une réalité?
Non, alors dans le village, en fait, il y a 6 ou 7 exploitants. Alors, il y a donc un élevage de chèvres et de brebis, un élevage de vaches et de brebis. Il y a un gars qui fait que des noyers. Il y a Pierre qui fait donc les petits fruits, les confitures et les jus. Il y a Jessica et Bruno qui, eux, sont plutôt dans les plantes médicinales. Un fait des huiles essentielles et Jessica plutôt des préparations phyto et tisane. Il y a Eodès qui nous fait des chaussures à façon. Il y a Isabelle qui nous fait de la maroquinerie, des petits sacs, des petites ceintures, des petites... si j'en oublie un, ça ne va pas le faire. Et puis après, on a un petit groupe de personnes... âgés,
nos anciens.
C'est nos anciens.
Allez.
Et puis après, il y a un peu des deux qui sont bien impliqués dans le village, qui sont aussi au conseil municipal, qui nous aident bien à s'occuper de tous les projets qui se passent dans Miscon. Donc voilà.
Vous diriez qu'il y a quelle part de la population finalement arrive à travailler dans le village?
Quelle part de la population? Donc nous, il y a un petit peu moins d'une moitié, parce qu'on a quand même quelques pré-retraités et retraités anciens, mais oui, une petite moitié. Petite moitié, voilà.
Et tout le monde joue à peu près le jeu aussi à Miscon de consommer local?
La plupart, oui. Comme je vous dis, comme tout le monde a un peu son jardin, vient acheter de la viande chez les uns, chez les autres, des fromages aussi. Oui, je pense qu'il y a vraiment une bonne proportion de manger local.
On accueille aussi à la table les popotes du dimanche. Alors,
Bonjour.
Bonjour Laura.
On partagera le micro.
Ouais, Gilles également. Salut à vous deux.
Salut Baptiste.
Ça tourne beaucoup au niveau du son. Ce petit Larsen vous était offert par Lolo. Eh bien, est-ce que vous voulez nous rappeler un petit peu ce que sont les popotes du dimanche et quelle a été votre action aujourd'hui?
Bah alors, peut-être parler déjà d'un peu de l'historique. C'est la communauté de communes du Diwa qui a, je pense, répondu à un appel à projet, je crois, et a eu des subventions et qui a permis d'embaucher Anne Rouge qui vient de parler ici. Et pour, dans le cadre d'un PAT, plan agricole territorial. Plan territorial alimentaire. Et souvent, quand on voit des salariés qui arrivent, ils font des réunions, ils font des bilans de ce qui se passe, des états des lieux, et ça, on fait des réunions et ça finit là. Et là, je crois qu'il y a une intelligence de la part de Anne, c'est de récupérer, d'aller chercher de l'argent, pour faire des appels à projets dans le Diwa et qu'on puisse faire en fait des projets. Nous, notre projet, c'était les popotes du dimanche. Et Laura, tu peux compléter sur les popotes? Je crois que c'était à l'origine de cette idée-là.
Oui. Suite à la réussite de la Disco Soupe l'année dernière qui avait eu lieu en octobre dernier pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, où on avait fait de la récupération auprès des producteurs et des commerçants, et où on avait cuisiné ensemble sur l'espace public place Jules Plan. Voilà, on a vu que ça avait pris, qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient venues et que ça avait créé un chouette moment de convivialité et de partage. Quand l'appel à projet mangeurs-mangeuses est sorti avec un axe pour pallier à la précarité alimentaire et rendre l'alimentation accessible à tous, l'idée est venue de peut-être proposer ce genre d'événement un peu plus régulièrement. Donc le nom, les popotes du dimanche, ce côté un petit peu convivial de cuisiner, popoter ensemble. Et un dimanche, parce que souvent le dimanche, il n'y a pas grand-chose en termes d'offres de restauration. Les familles n'ont pas accès à la cantine pour leurs enfants. Donc voilà, l'idée, c'est de cuisiner ensemble sur l'espace public. Et là, avec un petit peu d'aide de la communauté de communes via la subvention, on peut acheter des produits locaux et de qualité et donc de mettre en avant toute la disponibilité et la variété de produits localement.
Il y a une part de don aussi, ouais, non,
C'est très rare. Là, on commence à avoir quelques maraîchers qui, du fait, là, c'était la quatrième aujourd'hui. Donc, par exemple, on a récupéré des oignons chez Sandra, qui est au Perrier, et des salades. Les oignons, parce qu'ils ont monté, qu'ils ont fleuri, et donc elles ne pouvaient pas les revendre. Et les salades, elle en avait beaucoup trop et donc elle nous a donné des caisses, voilà. Mais je pense qu'il y a certains producteurs qui veulent nous faire des prix et en même temps, nous, on veut soutenir la production locale, donc on ne veut pas nécessairement qu'ils nous fassent des prix. On calcule le coût matière pour chaque repas, ce qui donne une indication aux gens et après, voilà, ils mettent la participation qu'ils veulent.
Et le retour de participation fonctionne ?
Sur la dernière, on était à l'équilibre. Donc ce qu'on avait dépensé, on l'a récupéré dans la caisse et aujourd'hui, on n'a pas compté. Évidemment, si on arrive à trouver notre rythme de croisière et avoir à chaque fois 100 personnes qui viennent, ça pourra permettre d'aller plus loin que juste ce qu'on a avec la subvention cette année. Ouais.
L'idée est vraiment que les gens puissent manger au moins une fois par mois, c'est déjà pas grand-chose, mais des produits de qualité, locales et de saison. Et donc, suivant leurs moyens. Et puis, si c'est gratuit pour eux, c'est gratuit pour eux. Il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est une réflexion qu'il y a, qui est déjà menée notamment à Dulphy, sur une sécurité sociale alimentaire. On a une caisse de réserve. C'est ce que nous a donné finalement ce projet. Et on fait à prix libre. Et plus les gens pourront donner, c'est vrai que plus on pourra continuer dans le temps. Voilà. Ça, c'est le hasard. Pour l'instant, c'est la quatrième. Et on essaye de s'améliorer à chaque fois. Et on essaye de faire des partenariats avec d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'était les circuits courts, enfin avec le VS 101.7, qui a organisé cette fête des circuits courts, cette première fête. On en fait un à Cocos bientôt, dans une cité populaire de Die. Là aussi, ils font un événement. Et aussi des partenariats avec des gens qui veulent aider, comme Jean-Loup qui est ici, et qui cueille et qui veut faire découvrir les plantes comestibles du Diwa. Jean, tu peux nous en dire deux mots peut-être ?
Oui, toujours d'accord, c'est sûr. C'est très important ces plantes sauvages parce qu'effectivement quand on parle de se nourrir au Diwa, on parle aussi de rester en bonne santé et de découvrir et de se guérir, surtout de tous les problèmes énormes que l'on a eu avec le Covid et puis cette fausse vaccination qui a créé quand même des milliers et des milliers de problèmes dans le monde entier, et même a dit qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, que l'on ne sait pas soigner, et les plantes sauvages sont pratiquement les seuls moyens que l'on puisse avoir de retrouver une santé. Donc ce que je fais avec les popotes du dimanche, et puis je le fais aussi tous les jours de marché, c'est d'aider les gens à découvrir des plantes nouvelles et de rencontrer les plantes sauvages, parce qu'on arrache systématiquement toutes les plantes sauvages parce qu'on ne les connaît pas, comme dans l'entreprise aujourd'hui où on licencie des gens parce qu'on ne les connaît pas, qu'on considère qu'ils sont inutiles. Alors que toutes les plantes sont utiles, elles apportent toutes quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de retrouver sa terre, de retrouver son goût, de retrouver un peu ses cinq sens. Et c'est un travail énorme, énorme à faire pour pouvoir retrouver et pour pouvoir cultiver. À Die, il nous manque énormément de terres agricoles. Le drame de Chamarges vraiment m'émeut énormément parce qu'on a perdu des terres qui demandaient des centaines d'années pour arriver à une terre aussi bonne, aussi riche. Et c'est perdre ces terres-là, ça m'émeut énormément parce que je ne sais pas quel plan va nous permettre de pouvoir continuer de cultiver les 90% de nourriture qui nous manque ici. Voilà, mais en tout cas, je sais que chacun fait de son mieux et que chacun avance dans le bon sens, mais il y a encore du chemin.
Et pour terminer sur les popotes, il y a aussi cette dimension sociale. Vous faites la nourriture tous ensemble, à plein de gens, qui veut. Peut-être un mot là-dessus pour terminer.
Oui, c'est important cette dimension-là aussi, c'est la convivialité. C'est le lien qu'on tisse ensemble. Donc il y a une commission qui s'occupe des menus, une qui va plutôt s'occuper de la communication, l'affichage, tout ça. Dans les menus, donc, ils achètent tout ce qu'il faut. Donc les producteurs locaux, ils se renseignent. Donc c'est quand même du boulot, mine de rien, c'est tout ça. On ne se rend pas compte de tout ce que c'est. Et ensuite, on amène tout ça. Et les gens viennent cuisiner avec nous à 10h. Voilà. Et ça prend du temps. Ça prend le temps que ça prend. On peut manger à midi comme à 1h. Ça dépend le nombre qu'on est, le temps qu'il faut pour la cuisson, les conditions, tout ça. Voilà. Et ça marche bien. Et les gens sont contents. Souvent, on les entend dire « Ah, la prochaine fois, je viendrai », etc. Et on voit, ça fait deux fois. On n'a
pas besoin d'adhérer, pas besoin de...
Non, c'est très souple. On n'est même pas une association, on est un collectif. Voilà. On verra si on se monte en association pour d'autres projets, s'il y a nécessité. Mais pour l'instant, c'est très souple et tout le monde est bienvenu dans l'organisation.
Anne, mangeuse, mangeur, qu'est-ce que c'est ?
Alors mangeuse-mangeur, ça a été un peu présenté, mais c'est un programme qu'on a monté l'année dernière pour la première fois grâce au soutien de Territoires d'innovation Biovallée. On est allé chercher un peu d'argent aussi auprès de l'Europe. Et l'idée derrière ça, c'était, on avait un projet alimentaire territorial, je vous l'ai dit, qui est un petit peu long. La phase de mise en œuvre, de diagnostic, elle est un peu longue. On avait des diwas, des diwas que moi je rencontrais qui me disaient « mais quand est-ce qu'on est dans l'action ?» Et ces projets-là, ils mettent un peu de temps à arriver à l'action. On avait d'un autre côté beaucoup de collectifs, d'associations, de producteurs, de productrices qui se bougeaient, qui avaient envie de faire des choses. Donc on s'est dit que peut-être le meilleur moyen, c'était de leur donner à eux les moyens de faire ce qu'ils savent faire, pour répondre à une problématique dont on savait qu'elle était prégnante dans le Diwa, hein, qui est la précarité alimentaire. Alors, elle n'est pas unique. Enfin, il n'y a pas une façon d'aborder la précarité alimentaire dans le Diwa. Il y a des gens qui sont en précarité alimentaire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y en a d'autres qui sont en précarité alimentaire parce qu'ils sont seuls. Il y en a parce qu'ils sont épuisés. D'autres parce qu'ils sont malades. On a beaucoup, beaucoup de raisons de pas manger... en tout cas de ne pas choisir ce qui arrive dans notre assiette ou de ne plus en avoir envie. Et donc on s'est dit, pour répondre à ça, on va laisser les associations avoir des moyens pour créer un peu plus de liens entre l'alimentation locale et ces personnes-là qu'on était éloignées.
Et donc, on a une première année où on a monté un programme. On a demandé à des structures qui le voulaient ou des collectifs de candidater. On a eu 15 projets qui ont candidaté. On en a retenu 9. Le jury, c'était un jury de la société civile qui compose le comité de pilotage du projet alimentaire territorial. C'est des gens qui ont été tirés au sort, qui ont sélectionné les projets. Et là, le programme, l'année prochaine, va prendre un petit peu plus d'ampleur parce que les moyens n'étaient pas énormes, hein, on en est conscient. On a réussi à aller chercher de l'argent, mais on a pu donner 2000 euros à chaque association ou collectif de producteurs, parce qu'on a aussi des collectifs de producteurs qui ont proposé des projets. Et on espère pouvoir doubler la mise l'année prochaine pour que les projets qui fonctionnent, qui ont de l'impact, et les popotes du dimanche en font vraiment partie. Je tiens à les remercier parce que ils tiennent leurs engagements et puis ils les multiplient encore plus. On avait dit que ce serait bien de faire 5 repas par an. Ils en sont déjà 4 en 6 mois. Donc voilà, on va essayer de leur donner plus de moyens pour rendre ces temps de cuisine partagés, de repas partagés plus réguliers, parce que moi je suis convaincue que c'est dans la répétition des choses qu'on crée vraiment du lien et qu'on ancre des pratiques différentes. La sensibilisation, elle passe par là et c'est tellement plus naturel.
Je voudrais qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on pourrait penser pour le Odiwa, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour aller vers plus de manger local. Alors là, qui veut répondre, hein, n'hésitez pas, peut-être Aline, il y a d'autres maires aussi, si vous voulez venir vous asseoir. Je vois dans l'assistance.
Plus de manger local, c'est vrai que pour beaucoup, c'est des habitudes qu'ils ont pris d'aller au plus facile en grande surface. Mais il y a aussi certains tarifs, tout ce qui est bio, c'est vrai que c'est compliqué, ça l'est de plus en plus d'ailleurs, puisqu'on voit bien que le bio régresse. Mais c'est ça, c'est de pouvoir partager et puis de vraiment faire la part des choses. L'exploitant gagne un peu plus et le client gagne aussi en qualité, et parce qu'on n'est pas forcément obligé de vendre son produit en suivant le rythme des grandes surfaces et grandes agglomérations. C'est d'entraîner, de parler et d'amener les gens à faire ce genre de journée, cuisiner ensemble.
Pour vous, on est encore dans une phase pédagogique?
Oui. Oui, oui. Pour moi, c'est encore de la pédagogie. C'est encore un peu comme pour les poubelles. Il y a du mieux, mais il y a encore de quoi faire. Voilà.
Parce qu'on a un peu le sentiment que peut-être il manque de la production, il manque de l'aide à la production, il manque que les circuits soient opérationnels, tous. Il manque que peut-être il n'y ait pas de gâchis dans ces circuits qui semblent aussi courts qu'ils soient. Qu'est-ce qu'on en dit ?
C'est un problème qui est vaste, hein, qui est complexe. Moi, ce que je vois surtout dans le Odiwa, bon, déjà, il y a la plus grande variété de la production sur le Diwa, elle se situe ici. Hein. C'est vraiment un des gros cœurs agricoles du Diwa, le Odiwa. C'est aussi là que sont concentrées les meilleures terres aujourd'hui. Il faut le savoir, en termes de valeur agronomique, on sait que c'est sur cette vallée-là qu'on a le plus de potentiel. Après, bien sûr, il faut pouvoir soutenir la production. Nous, l'une des réponses qu'on va avoir là sur le plan d'action du projet alimentaire, on va en avoir plusieurs, mais on relance après 10 ans d'arrêt un programme d'installation transmission sur le territoire. L'idée, c'est vraiment d'essayer de mieux connaître le tissu agricole ici, pouvoir accompagner les cédants et les futurs cédants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de suivi de ça.
On a, quand on dit que ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de ce type de programme, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on n'invite plus les acteurs comme la SAFER, comme Terre de Liens, comme ADEAR, comme les chambres d'agriculture, enfin tous les acteurs qui travaillent dans le milieu agricole, à se poser des questions de que vont devenir les fermes qui vont normalement être transmises. Et pour pas qu'elles partent uniquement à l'agrandissement ou encore pire à la déprise, enfin encore pire, qu'elles partent à la déprise rurale, il faut que ça s'accompagne. Et on a aussi envie de pouvoir accompagner ceux et celles qui ont envie de s'installer ici et qui puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, pour pas qu'ils s'arrêtent aussi en bout de course, parce qu'on en a pas mal d'exemples ces dernières années, hein, de gens qui tiennent pas. Et c'est une vraie réalité. On a eu beaucoup de couples qui se sont séparés sur des installations au bout de quelques années. Donc toutes ces choses-là, faut les accompagner.
On sait pourquoi ?
Parce que la terre est basse et que c'est dur ce métier, et que quand on n'est pas très accompagné dans des territoires qui sont aussi solidaires qu'ici, même dans des territoires comme ça, c'est difficile. Qu'on a de moins en moins d'eau, qu'on a des inflations qui font que les gens n'ont pas toujours une fidélité aux produits locaux toute l'année.
Enfin, ouais, donc quand tu parles d'accompagnement, Anne, pour la Comcom, ouais, c'est quoi ?
Déjà, ça a l'air de rien comme ça, mais faire que les élus tout d'un coup par exemple se disent on va se relancer dans un programme d'installation de transmission, donc on va se former à ce que sont les enjeux agricoles, on va faire circuler l'information qui circule plus depuis 10 ans sur ces sujets là et en fait ça déjà c'est un travail de longue haleine de dire à des élus c'était plus l'un de vos enjeux, et ils en ont. Enfin, je suis pas là du tout pour parler de tout ce que les élus font, mais des enjeux, ils en ont beaucoup. Mais en fait, là, depuis quelques années, l'agriculture, c'est pas une compétence d'une communauté de communes, par exemple. Et donc là, ce qu'on dit, c'est en fait, ça va être un sujet. L'irrigation agricole, ça va être un sujet. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver de l'eau là où il n'y en a pas, mais on va demander aux élus, on va amener de l'expertise et on va les former pour qu'ils puissent être outillés et défendre des situations où on a besoin de pouvoir irriguer, qu'ils puissent défendre l'installation, qu'ils puissent accompagner les cédants. Donc ça, c'est une des premières réponses que va apporter le projet alimentaire territorial. La deuxième, et elle va concerner le Haut-Diwa, c'est que il y a des écoles, là je vais parler des écoles sur le Diwa, qui ont la chance d'avoir des cantines où tout est cuisiné sur place. On n'a pas trop à en rougir, hein, on a quasiment la moitié de nos écoles, mais ça veut aussi dire que dans la moitié des écoles du Diwa, il n'y a pas de cuisine faite sur place. Et donc, si la cuisine n'est pas faite sur place, elle n'est pas faite à partir de produits locaux. C'est déjà une première partie de l'équation quand on se dit comment on fait pour relocaliser ce qu'il y a dans les assiettes de nos enfants. Et là, ça va toucher du monde, parce que tout d'un coup, quand on touche 30, 60, je crois que Luc en Diwa, par exemple, c'est 70 enfants qui mangent tous les midis. Si on arrive à relocaliser des outils de cuisine collective, et c'est notre ambition dans le cadre du projet alimentaire territorial, on pourra plus travailler sur les approvisionnements locaux et travailler en partenariat avec les producteurs qui aujourd'hui sont, j'aime pas dire ce mot de petits producteurs, mais c'est vrai qu'on a plutôt des exploitations de petite taille dans le Haut-Diwa, et pour qu'on puisse travailler avec eux à taille humaine, ouais. Pour qu'on puisse travailler avec eux, il faut qu'ils puissent s'associer pour permettre de proposer des volumes dont a besoin la restauration collective.
Mais ça va passer par des infrastructures qui n'existent pas aujourd'hui, c'est-à-dire des entrepôts, des ateliers de transformation, des conserveries.
Oui, ça doit passer de toute façon par de l'accompagnement à permettre pour que tout ça se soit relocalisé. Oui, il faut qu'il y ait des ateliers de transformation comme des légumeries. Si on veut que nos enfants, seniors, nos personnes malades aient des produits locaux dans leurs assiettes, il faut des outils de transformation sur le territoire. On s'est engagé à y travailler. C'est aussi l'un des grands axes du projet alimentaire territorial, c'est avoir des ateliers de transfo et avoir des ateliers de cuisine collective.
Donc on a trouvé la destination des terres bétonnées de Chamarge, puisque les meilleures terres agricoles sont dans le Haut-Diwa.
mais c'est pas moi qui déciderai de ça. Mais sachez qu'on a un projet plutôt sur le Odiwa pour l'instant, parce que les besoins de la cantine sont beaucoup situés dans le Odiwa jusqu'à la Motte Chalancon. La plupart des écoles qui n'ont pas de
c'est
cuisine
aussi les plus éloignées
collective,
du territoire. Ouais.
Bien sûr, c'est celles qui sont les plus éloignées d'y. Donc,
qui sont donc livrés par Livron, ce qui est une ironie.
Voilà, c'est pour ça qu'on a... C'est l'une des questions qu'on a besoin de traiter dans ce projet alimentaire territorial.
Merci pour ton sens de l'humour au vitriol, Baptiste. J'apprécie beaucoup, mais j'apprécie aussi beaucoup toute la démarche constructive de Anne. C'est vrai que c'est très important, il faut aller dans ce sens-là. Par contre, je ne saurais qu'insister et insister encore sur le fait qu'il y a un changement de comportement nécessaire vis-à-vis de l'alimentation, et toutes les plantes sauvages nourrissent.
Ah oui.
Et c'est vrai que moi, tous les matins, je me pose la question, est-ce que je vais à l'Intermarché ? J'y suis pas allé depuis des années, mais c'est acheter quelque chose ou bien est-ce que je vais cueillir ? Et sincèrement, aujourd'hui, si on fait le compte de toutes les plantes que j'ai amenées ici, que j'amène à chaque fois aux popotes, chacun peut faire une salade complète qui nourrit complètement pour 0 €.
Encore et de ça, la pédagogie, donc.
Ça, il faut apprendre. Donc, moi, tout ce que je fais ici, c'est d'aider les gens à faire le premier pas. Ce que j'apprécie beaucoup à Miscon, c'est qu'ici, justement, il y a énormément de gens qui sont sensibles ici. Ils laissent les haies, ils font, toutes les personnes que je connais à Miscon, c'est fabuleux. Il y a vraiment une ouverture. Mais à dire, on doit motiver les gens pour ça, regarder dans leur jardin, échanger avec les voisins. C'est échanger avec chaque voisin. Dans tous les jardins, il y a des choses intéressantes qui nourrissent.
Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin.
Ça, c'est vrai.
Oui, mais alors, non.
Les autres jardins pourraient...
Sincèrement, quand on fait des balades à l'extérieur, quand on a un prix, on trouve suffisamment de choses. On a quand même 1000 km de balades gratuites à Digne. Hein. Donc, quand même, merci.
Je dis juste que la sensibilisation ne peut pas être l'unique réponse à la précarité alimentaire et...
On est d'accord.
Et à l'accès aux produits locaux.
On est d'accord, mais c'est quand même très très important parce que ça nourrit.
C'est
un
complémentaire.
Autre niveau. Voilà.
Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on parle un peu de l'eau parce que c'est quand même un des problèmes que tu as cité d'ailleurs, Anne. Un des problèmes prégnants qui devient de plus en plus majeur même dans le Diwa. Certains nous annoncent des projections absolument alarmantes. Si on ne fait rien, eh ben, on n'aura plus que les yeux pour remplir la Drôme. Comment ça se réfléchit à l'échelle des communes? Michel, bonjour, maire de Barnave, par exemple. Tiens, parlons de l'eau et de la gestion de l'eau. Comment ça se passe à Barnave? Est-ce qu'on en manque?
Pas toujours.
On n'en manque pas toujours. Ouais, c'est bien de le dire comme ça.
Disons qu'il y a souvent un passage un peu difficile en août-septembre. Août, parce qu'il y a beaucoup de gens, les résidences secondaires, les gîtes et compagnie. Et septembre, parce que les sources commencent à baisser en août, septembre, octobre. Donc il y a un passage un peu litigieux à ce moment-là.
Voilà, avec quasiment des sécheresses plutôt, on dit, hivernales, automnales-hivernales que l'été, finalement.
Oui, enfin, c'est plus automne, oui.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer à l'échelle de Barnave ou de Miscon, Aline, hein, vous n'hésitez pas, à faire de l'agriculture qui demanderait de la ressource en eau un peu forte, comme peut l'être le maraîchage ou le maïs, au choix?
Ah bah, je pense qu'à Barnave, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas beaucoup de champs de maïs à Barnave.
Mais il n'y a pas beaucoup de maraîchage non plus.
Non, mais je pense que ce qu'on se rend compte à Barnave, c'est que quand on arrive à une limite, c'est-à-dire quand le trop-plein ne coule plus, on passe un message aux habitants et automatiquement, on gagne quasiment 20% d'eau. C'est-à-dire que les gens, ils font, on ne peut pas dire que les gens gaspillent l'eau, mais dès qu'il y a un message, ils appliquent les restrictions. Et ça passe comme ça le plus souvent, quoi.
Mais on pourrait peut-être pas soutenir d'activités qui consommeraient plus d'eau aujourd'hui. C'était ça le sens de ma question.
Non. D'ailleurs, il y a un chevrier qui s'installe et qui sera sur une source privée. À l'Halloween, il y a quelqu'un qui est installé en culture et qui voudrait éventuellement faire de l'élevage, qui est sur une source privée. Je pense.
Je veux dire, heureusement, quoi. C'est ça.
Ah ben c'est pas heureusement, c'est qu'il n'y a pas le choix. Enfin, d'une part parce qu'ils sont en dehors du village et on ne peut pas leur amener l'eau. Et d'autre part parce qu'on ne peut pas assumer une consommation d'eau importante. On n'a pas les moyens actuellement avec les sources qu'on a. Et je pense qu'on ne peut pas chercher d'autres sources. Voilà, c'est la limite.
Je vais prendre le micro, Anne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent vraiment fort là sur la Comcom? Et on a aussi des agriculteurs avec nous qui pourront peut-être parler de cette gestion en eau.
Oui, oui, Christophe et Pierre en parleront mieux que moi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait une réunion il y a 2 semaines avec l'OUGC, qui est l'organisme unique de gestion collective, je crois, qui gère les autorisations de prélèvement en eau pour les agriculteurs et les agricultrices. Ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est en gros, le gâteau, il est déjà partagé. Il n'y aura pas plus d'eau prévue pour l'irrigation agricole. Je parle juste d'irrigation agricole. Sur le territoire du Diwa, on a peu de terres qui sont irriguées. On a 1,7% de nos terres. Donc en gros, ce qu'on comprend un peu comme message, c'est vous resterez à ce volume d'eau. Donc vous vous débrouillez avec ces 1,7% qui existent déjà sur le territoire. Et donc, ce qu'on en comprend, parce qu'on est sur ce secteur à enjeu, bon, déjà, c'est qu'on a besoin que nos élus puissent se former pour aller dans ces instances de décision, au moins être informés de ça, parce que jusqu'ici, on n'était pas invités en tant que collectivité dans ces réunions-là, ne serait-ce qu'être informés et ensuite pouvoir en discuter. Mais si on doit se partager avec les jeunes ou les moins jeunes qui veulent s'installer en agriculture, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec ceux qui vont céder et qui avaient des autorisations de prélèvement en eau jusqu'ici pour qu'ils les transfèrent. Soit que sur leur terre, là où il y a déjà des points de prélèvement sur leur ferme, bah, qu'ils puissent céder ces fermes et qu'on maintienne les autorisations de prélèvement en eau, soit qu'il y ait du transfert de ceux qui avaient déjà des autorisations de prélèvement en eau pour pouvoir les transférer à des nouveaux, mais sur des points de prélèvement existants. On ne peut pas mettre
et vers d'autres types de production.
Ferme n'importe où. Alors justement, la question, ça va être, est-ce qu'il y a assez d'eau pour installer d'autres types de production? On sait bien que le maraîchage, ça demande plus d'eau, ça demande entre 4, et, si je ne me trompe pas, et 5000 hectolitres à l'hectare. Selon tout type de production, on a des normes qui nous sont données comme ça et surtout qui sont problématiques à ce qu'on appelle l'étiage, qui est cette période estivale, là où le maraîchage a le plus besoin. Ça veut pas dire qu'on peut pas installer de maraîchage dans le Diwa, ça veut juste dire qu'il faut que ça se prévoie avec les autorisations de prélèvement en eau existantes et qu'on puisse travailler ça en amont. Il ne faut surtout pas qu'on se retrouve dans des situations où on a laissé s'installer des gens sur des terres où ils vont manquer d'eau et où on va arriver à des situations catastrophiques.
Est-ce que vous voulez témoigner là-dessus, sur l'eau, Christophe, par exemple, pour les mouscardins?
Alors, bah, moi, je suis installé comme maraîcher du camp d'Iwa. Au niveau du parcellaire, j'ai en hectare en culture. Et pour dire, j'ai le droit à 1000 mètres cubes. Comme n'importe qui, j'ai pas de droit d'eau autre que ça. Du coup, l'an dernier, j'ai planté autant de patates que j'en ai récolté. Les oignons étaient minuscules, je les ai pas vendus. Et du coup, cette année, ça va un peu mieux. On a eu pas mal de pluie, mais c'est vrai que c'est problématique de respecter ces quotas. Voilà.
Comment tu t'en sors?
Eh ben,
elle vient d'où ton eau?
Ben, j'ai en forage. En forage, je pompe dans la nappe de la Drôme. Et bah, je travaille pareil avec des paillages, en grattant mon sol quand il faut gratter. Et voilà. Mais c'est vrai que sous tunnel ou quoi, il n'y a pas le choix. Enfin, si on veut avoir des calibres, il faut envoyer de l'eau. Et s'il n'y a pas de calibre, on ne vend pas les légumes. Du coup, c'est problématique. Il faut que j'arrive à négocier plus de droits d'eau. Quoi. Il me faudrait 4000 mètres cubes pour être confortable. Quoi.
Et quand je parlais de transfert de culture, quelles sont les cultures qui aujourd'hui ont des droits d'irrigation? On a toujours l'impression, parce qu'on passe à côté au bord de la route, que ce sont des champs de grandes cultures céréalières ou autres.
Dans le Diwa, non, il n'y a pas énormément. Je veux dire, c'est pas les 1,7%, ils ne sont pas fondamentalement là-dessus. Mais ça arrive, on a de l'élevage de poules, par exemple, qui a des autorisations de prélèvement en eau. On a quand même, on n'a pas arrogé, on a peut-être 12 fermes maraîchères quand même dans le Diwa. Donc on a du maraîchage, on a un peu d'arboriculture, on a de la, La pomme, on a des noyers qui sont plus en plus irrigués, mais la vigne ne l'est pas encore. Mais l'irrigation qui a le plus augmenté sur les 10 dernières années, c'est les plantes à parfum et les aromatiques. Ça a été multiplié par. Enfin, on a fait plus 300% en 10 ans.
Ce qui n'est pas nourricier. C'est bien pour d'autres raisons, mais.
Il faut quand même savoir qu'on a vraiment une toute petite partie de nos terres qui sont irriguées, contrairement aux bas de vallée dans la Drôme. Hein. C'est 1,7%, c'est vraiment tout petit.
Pierre, agriculteur également, tu voudrais réagir là-dessus ?
Ce qui me vient en tête, c'est que. À cette heure-ci, en fait, on ne sait pas à qui on peut parler de ces problématiques. Quelqu'un comme Christophe, qui est maraîcher, qui a des soucis d'eau, ou de jeunes installés qui, jusque-là, n'existaient pas et qui sont installés et qui doivent avoir de l'eau. On n'a pas de recours, on ne sait pas à qui on peut en parler, on ne sait pas comment on peut mettre sur la table les problèmes, en fait, et en discuter ensemble. Donc il y a ça qui manque. Souvent, on a l'impression qu'il y a des choses qui nous sont imposées. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. On nous explique mal les tenants, les aboutissants. Ça met des situations où je trouve, en fait, il n'y a pas tellement d'intelligence collective.
Vous-même, les agriculteurs, vous échangez entre vous un peu ? Il y a des endroits où vous vous retrouvez pour ça ?
Non, c'est vraiment à l'occasion de rencontres complètement officieuses, parce qu'on se retrouve sur un marché, mais il n'y a pas...
Ça donne envie de poser la question de l'isolement de cette profession, d'une manière générale. Si tu ne sais pas à qui t'adresser, mais que même entre vous, vous n'échangez pas là-dessus. On sent quand même que l'agriculteur a une pression assez incroyable, d'une manière générale, et qu'il est presque seul pour faire ça, quoi.
Seul, il y a les syndicats qui essayent d'y travailler et qui sont un point de rencontre possible où on peut en discuter. Mais oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de groupe de travail sur la question. Quoi.
Bah, c'est pour ça qu'on s'est dit, dans le cadre du... Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait que l'information circule avec ces programmes d'installation de transmission. C'est des lieux où on va être obligé... Enfin, on va amener certains acteurs du territoire à venir sur le Diwa régulièrement, où on va devoir discuter et discuter des problèmes, en effet. Et je suis d'accord sur l'eau. Même moi, quand j'ai commencé ce projet alimentaire territorial, j'avais du mal à comprendre où est-ce qu'étaient prises les décisions, pourquoi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a jamais... ce serait trop simple qu'on se dise juste on arrête d'irriguer tout ce qui n'est pas nourricier. Le problème, c'est que dans le Diwa, la plupart des fermes, elles sont en polyculture élevage. On n'a pas ici, mais à dit la viticulture. Parce que moi, j'ai souvent entendu des gens dire il faut arrêter la vigne et puis on va mettre d'autres cultures. Mais en fait, elle fait vivre 250 familles et qui ne vivent pas que de ça. Ils ont aussi, parfois, ils peuvent aussi avoir un peu de maraîchage, avoir un peu d'ail. Et c'est leur source de revenus principale. Qu'est-ce qu'on leur propose pour remplacer si on doit arrêter ça ? Et pareil pour les plantes à parfum. Je veux dire, il n'y a pas... tout n'est pas tout noir, tout blanc à se dire c'est bon, on peut échanger les choses comme ça. On arrive dans des fermes qui se sont construites pendant des années. Et moi, je ne peux pas me permettre d'arriver en disant « mais ce n'est pas nourricier, alors vous arrêtez d'irriguer. Qui je suis pour aller apprendre la vie à des gens qui bossent pour ce salaire-là et quand même qui finissent par me nourrir ?» Donc, en fait, c'est ce que dit Pierre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des endroits où on puisse en discuter et aussi qu'on sache quand est-ce qu'il faut taper du poing sur la table, parce qu'il y a des lieux de décision, bien sûr, qui sont plus éloignés que le Diwa. Enfin, l'eau ne se décide pas dans le Diwa. Donc il va falloir qu'on se mette ensemble.
Oui, c'est un bassin versant Rhône Méditerranée, c'est ça maintenant. C'est un truc hyper...
En tout cas, le bassin versant, on est solidaire avec d'autres territoires. Et c'est pas parce que la source de la Drôme est ici que l'eau nous appartient.
Tout à fait. Est-ce que vous faites partie de la Biovallée ici ? Alors, la question posée, est-ce que Miscon fait partie de la Biovallée ? Oui, a priori. Attendez, est-ce que vous voulez bien venir au micro ? Parce que sinon, on ne vous entend pas. Et comme c'est de la radio...
J'habite Cré, et puis j'ai de la famille très engagée dans la ruralité. Et j'ai mon neveu en particulier qui fait partie du conseil d'administration de la Biovallée. Il y a eu toute une réflexion sur le problème de l'eau dans la vallée. Mais est-ce que vous faites partie de la Biovallée ici?
Oui.
Alors,
bien sûr.
Ben, il faut vous associer parce qu'il y a vraiment une réflexion très, très pertinente sur le problème de l'eau.
On y réfléchit beaucoup ensemble avec les acteurs de la Biovallée, bien sûr.
Voilà, parce que mon beau-frère, mon neveu est exploitant au niveau pépinière. Et il a lancé toute une dynamique, justement, au niveau des arbres, des arbres dans la vallée.
On se voit tous les deux, trois mois, ouais.
Oui, alors c'est très important, tout ce qui se passe à heure sur le site de la Biovallée.
Alors sachez que toutes les communes de la communauté de communes, puisque la communauté de communes en fait partie, en font partie également, et que ça rassemble donc les trois communautés de communes sur l'ensemble de la vallée de la Drôme. Donc oui, Miscon, de fait, fait partie de la Biovallée.
Je suis très heureux
et certaines communes y adhèrent.
Il y a quand même une réflexion profonde sur ce problème de l'eau.
Mais c'est bien de le rappeler ici et on se posait des questions également.
Moi, je suis simplement, je soutiens l'initiative de la Biovallée parce qu'ils font un travail remarquable au niveau de la pédagogie, au niveau de différentes problématiques du monde rural. Et sur le problème de l'eau, il y a vraiment une recherche, enfin un travail de profondeur sur ce thème-là pour l'économie. Et moi, je suis très surpris de voir que quatre fontaines coulent en permanence dans le village. Ça me semble...
Non, c'est un trop-plein. Qui coule parce que c'est le débordement de la source et donc elle reva au ruisseau, il n'y a pas de souci pour ça.
Ça me rassure.
Alors écoutez, moi pour ce problème de l'eau...
Est-ce qu'elle est potable?
Elle est potable, vous pouvez la boire.
Des bonnes informations.
Moi je pense aussi que ce problème de l'eau, ce n'est pas un problème nouveau. Ça fait au moins une vingtaine d'années que l'on en parle et que là, on arrive au bout du bout. Et que c'est vraiment un problème politique, mais pas politique de la communauté de communes, c'est politique de notre président national, et que quand on veut faire des choses, on le peut.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Il faut faire comme on pourrait nous faire pour les retraites, par exemple. On nous oblige à restreindre, à faire attention. Là, en ce moment, on a quand même dans la communauté commune de Diwa un programme avec l'agence de l'eau. On est la communauté de communes initiée et comment on fait ? On est toutes les communes ont eu droit à avoir des subventions si elles faisaient un schéma directeur d'eau et d'assainissement pour enlever les fuites, pour mettre des compteurs, pour faire prendre conscience aux gens que ben non, on laisse pas le robinet couler, que non, ben finalement, il faut récupérer l'eau des toits. Voilà, nous, enfin, je veux pas m'encenser, mais sur Miscon, toute maison a une cuve, voire deux, pour récupérer l'eau, pour arroser le jardin. Il y a Pierre et Jean-Marie qui ont fait un petit lac collinaire pour faire arroser les petits fruits. Mais tout ça, si c'est pas un peu soutenu par nos instances du haut, ça prend 20 ans. Et puis maintenant, on arrive au bout du bout. Et bien sûr, l'eau commence à être restreinte. Et voilà, moi, pour moi, ce n'est pas que les gens locaux, les petites communes. Et je pense qu'on fait déjà... pas mal d'efforts depuis déjà quelques années, mais qu'il faut malgré tout qu'on ne passe pas qu'aux grandes entreprises qui mettent des sous, hein, qui ramènent du fric, comme je dis, mais il faut penser un peu à tout le monde.
Voilà, un grand plan national pour l'eau, finalement. Christophe ?
Et au niveau de l'eau, je dirais juste que c'est mal réparti. On a des périodes de sécheresse, des périodes où on a beaucoup d'eau. Et le stockage, ça me paraît fondamental, notamment bah, pour les toits, mais même pour avoir des projets plus ambitieux. Il y avait le Grand Lac, le Petit Lac, quand le CLAPS s'est effondré. Et pourquoi pas recréer vraiment des grosses zones pour soutenir l'étiage de la Drôme en période sèche. Et recréer une zone, notamment au Petit Lac ou au Grand Lac, ça voudrait dire...
C'est-à-dire en bas de Miscon, là, hein, c'est de ça dont on parle. Hein.
Pas loin de voir, mais... Ouais. De pouvoir stocker vraiment l'eau quand on en a pour la restituer dans la rivière en période de sécheresse.
Hugo.
Là, vous parliez tout à l'heure du projet installation, transmission. Mais en fait, qu'est-ce qui est garanti après aux maraîchers via tout son travail, en fait, pour nourrir toute la population locale? Qu'est-ce qui lui garantit d'avoir à la fin du mois un vrai salaire?
Voilà,
Ça, c'était la grande question.
C'est pas moi qui garantirais ça, mais on travaille aussi, du coup, à se dire comment on valorise la production, et on s'est engagé à travailler avec les producteurs à monter un ou plusieurs ateliers de transformation pour valoriser les productions et aussi pour leur permettre d'être vendables en restaurant collectif. Parce qu'on a besoin qu'il y ait plus de produits locaux dans les restaurants collectifs du DIY, il n'y en a quasiment pas, donc ça pourrait être des nouveaux débouchés. Et pourquoi pas, j'ose le gros mot, mais qu'il y ait aussi plus de produits locaux dans des circuits de distribution comme la grande et moyenne distribution, plus d'épiceries locales, parce qu'on sait que les marchés, c'est super, mais ça ne peut pas être l'unique déboucher des maraîchers sur le DIY. Donc on va travailler à ça. Après, j'aurai pas de garantie de salaire.
Et je pense qu'il y a un exemple qui est super intéressant, c'est ce qu'a fait le département de la Dordogne, où en fait ils ont réussi, mais c'est une décision politique, à faire qu'il y ait 100% de leur cantine scolaire qui soit bio, locale, fait sur place. Et ils ont réussi, quoi, c'est 100%. Et en fait, on peut s'en inspirer et on verra qu'effectivement, les agriculteurs de Dordogne qui participent au projet, ben, ils sont rémunérés correctement, quoi. Et apparemment, ça ne coûte pas plus cher aux cantines qu'avant.
Ouais, les exemples sont nombreux. Il y en a aussi dans le sud de la France, des régies à l'échelle de certaines communes, de certains départements, de communautés de communes. Tiens, Charlène, tu représentes le SMRD. Tu avais quelque chose à dire ? Et on va terminer cette émission parce qu'il y a un concert qui veut commencer là-bas.
Et bonjour. Moi je travaille pour le SMRD depuis un an.
Syndicat mixte de la Rivière Drôme.
Le syndicat mixte de la Rivière Drôme. C'est une structure qui travaille à l'échelle des 3 intercommunalités, à l'échelle du bassin versant, et qui finalement met en place des actions issues de la volonté de la commission locale de l'eau, l'assemblée, qui va discuter à l'échelle du territoire de la vallée de la Drôme des sujets qui vont concerner l'eau, l'usage de l'eau, mais aussi les milieux aquatiques et l'impact de l'utilisation de la ressource sur les milieux aquatiques. Donc moi j'ai été embauchée pour animer des actions en faveur des économies d'eau. Et c'est une des actions qu'on peut mener sur notre territoire pour réduire notre pression sur la ressource. Et donc moi, mon travail, c'est d'apporter de l'information au grand public au travers de petits événements que l'on mène, par exemple aujourd'hui, en se rencontrant sur le stand que l'on tient, et d'autres événements qu'on a programmés et qu'on tient sur un peu tout le long de la vallée de la Drôme, sur des marchés ou lors d'événements locaux.
Donc vous rendez de plus en plus disponible aussi pour pouvoir éventuellement répondre à des questions.
Voilà.
C'est un peu ça l'idée.
Ouais. Et puis on distribue aussi des kits d'économie d'eau en s'appuyant sur des partenaires relais de distribution de ces kits. Voilà, ça c'est des actions qu'on va mener auprès du grand public. Auprès des jeunes, on peut faire aussi de la sensibilisation en intervenant dans les écoles. Voilà, les choses elles se mettent en place petit à petit. Puis à côté de ça, on a deux autres types qui sont les professionnels et les collectivités. Et auprès des pros, notamment, on fait des moments justement de discussion pour parler de la ressource avec un point de vue sur le bassin versant, pourquoi il faut qu'on partage cette ressource, mais aussi d'avoir des échanges entre pros sur comment on peut faire des économies d'eau, comment on peut préserver cette ressource dont on a besoin, mais pas que notre profession, quoi. Et donc, on a mené 2 ateliers, un avec les campings en mars dernier, un avec les services gestion des espaces verts en avril dernier. Et donc, à l'automne prochain, il y en aura d'autres qui seront menés, et notamment aussi avec les agriculteurs. Et les retours qu'on a, c'est que c'est important d'avoir ces moments de discussion pour échanger sur les bonnes pratiques et c'est une base pour derrière mener d'autres actions même si ce sera pas forcément porté par nous, à voir comment ça peut se mener sur le territoire.
Merci Charlène. RDIWA depuis la fête du circuit court EVS 101.7 et sur la FM 107.5 également. Merci à toutes et tous pour votre participation. Aline Michel, maire de Miscon et Barnave. Donc Charlène pour le SMRD. Pierre et Christophe, agriculteurs. Anne pour la communauté de communes. Et puis tous ceux qui ont voulu participer à ça. Lolo à la technique. À la prochaine.